En août dernier, une histoire qui nous a beaucoup interpellés. José, Asperger et atteint du syndrome de la Tourette, a été incarcéré pour des petits vols. C'est l'histoire d'une personne, mais il semble qu'on compte, qu'on dénombre plutôt une surreprésentation des personnes qui ont un trouble de l'autisme et qui sont en prison, qui sont incarcérées. Donc, pour savoir ce qu'il y a derrière ces histoires, on reçoit Benoît Côté, qui œuvre depuis longtemps avec les populations qui vivent cette situation. Bonjour, Benoît Côté.
Oui, bonjour.
Bonjour. Donc, rappelons que vous êtes directeur général du PECH, Programme d'encadrement clinique et d'hébergement. Avant qu'on discute précisément de ce que vous faites au programme, au PECH, est-ce que la prison est devenue un lieu de prise en charge des cas de santé mentale, M. Côté?
C'est une tendance dans tous les pays industrialisés depuis plusieurs années, particulièrement aux États-Unis, qu'on peut observer. Et cette tendance-là, malheureusement, touche aussi la province de Québec. On constate, par exemple, depuis 3 ans, nous avons une personne de pêche qui travaille en détention, l'établissement de détention de Québec.
Ah oui, donc, qui travaille vraiment en proximité là, avec les gens incarcérés. Là.
Oui, oui, directement.
Okay.
Et ces personnes qui ont un problème de santé mentale et de toxicomanie qui sont vues par notre intervenante. On est passé de 175 personnes il y a 3 ans à plus de 330 au cours de la dernière année. Donc, ça a doublé
dans la dernière année?
Dans les trois dernières années. Alors, c'est préoccupant. Ça suit une tendance des pays industrialisés. Tout se passe comme si la prison était devenu lieu de prise en charge des personnes qui vivent des problématiques multiples. Et ça comprend aussi les personnes autistes, là, comme vous, dans votre introduction dont vous parliez là, tout à l'heure.
Avant qu'on parle de votre travail spécifique, parce que vous êtes des gens dédiés en première ligne, continuons de parler de ces problèmes sociaux. Comment ça se manifeste dans une prison, ces personnes qui sont incarcérées? Comment vous pourriez décrire leur vie pour que les gens comprennent bien l'ampleur des difficultés?
D'abord, c'est des personnes qui commettent la plupart du temps des délits mineurs. Là, bon, c'est troubler la paix ou c'est des vols simples ou des fois ça peut être des vols qualifiés. Il y a toute une gradation de délits là-dedans, mais il faut comprendre que pendant longtemps, il y a une vingtaine d'années, la prison pour certains patrouilleurs de la ville de Québec, c'était vu comme le seul endroit où on pouvait offrir gîte et couvert à quelqu'un qui était dans la rue.
À ce point-là?
Je pense que dans
c'est un réflexe.
Ben, il n'y avait pas tellement d'alternatives à ce moment-là. On a même entendu dire sous le couvert là, de la confidentialité que des policiers qui étaient il y a 10 ou 15 ans sur la rive sud de Québec, Lévis par exemple, prenaient une personne qui avait l'air désorganisée dans la voiture et l'amenaient à la traverse de Lévis, pour ceux qui connaissent Québec, là, et puis disaient, ben, va-t'en de l'autre côté puis demande de l'aide de l'autre côté. Donc, c'était une façon d'expédier manu militari une personne. Mais il faut comprendre que l'itinérance et tous les phénomènes d'exclusion sociale puis de désaffiliation sociale, à la décharge des policiers, ils sont aux prises avec ces réalités-là comme intervenants de première ligne dans 80% de leur travail de policier. On entre dans la police pour faire des courses folles en voiture pour attraper les bandits, etc., etc. Tu sais, ça fait un peu série plus, là. Mais la réalité de patrouilleur, c'est que tu es dans les situations de crise psychosociale ou psychiatrique, violence conjugale, toxico, etc., là, à cœur de jour.
Bon, on entend l'éditorial. Plus de travailleurs sociaux ou de travailleurs de milieu plutôt que policiers. Écoutez, je vous demanderais, j'entends tout à fait le phénomène, on est un peu scandalisés, on est plusieurs à table déjà, là. Qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour éviter, ou qu'est-ce qu'ils ont fait, si c'est le cas, pour éviter ce recours systématique à la prison?
Le problème, c'est l'accès à des services en dehors des heures de travail pour des clientèles qui vivent une situation de crise. Par exemple, à Québec, là, malgré la réorganisation des CIUS, fait en sorte que on manque d'accès après 17 heures à des services où tu peux être reçu par quelqu'un qui va faire une intervention de crise normale, de décompression, qui va t'écouter. La seule alternative pour beaucoup de Québécois ou de Québécoises en ce moment, là, après 5 heures, 17 heures, on va où? On appelle le 911 ou on va à l'urgence d'un hôpital puis on va à l'urgence psychiatrique. Et on devrait, je pense, multiplier les les occasions où il y a bien le service 811, là, au téléphone, où on peut parler à quelqu'un au téléphone, là, c'est bien.
À Québec, ça?
Ben, c'est partout dans la province.
Ah
là.
Oui?
Oui, oui.
OK.
On appelle ça c'est l'urgence sociale. C'est un numéro de téléphone que les CIUS mettent à disposition de la population. Mais si tu veux rencontrer quelqu'un, en direct, comme dirait l'autre, avec une vraie personne qui va t'écouter et dans un délai rapide et qui peut faire une intervention, il n'y en a pas. T'sais. D'abord, on a un autre problème en amont de ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de psychologues disponibles. Là. Il y a des listes d'attente infinies là, pour des gens.
Puis rappelons aussi qu'à court terme, il n'y a pas de service pourvu en psychologie.
Ça fait 25 ans qu'on parle de l'importance de développer des services de première ligne au Québec. Mm-hmm. Et tout ça, c'est du discours, peu importe les gouvernements. Il n'y a jamais un gouvernement qui a vraiment saisi le taureau par les cornes pour investir massivement. Malgré toutes les études qui disent que ce qui fonctionne, c'est des services près de la communauté, près des gens, direct, accessible, le plus possible, là, en dehors des heures du 8 à 5. Quand les gens travaillent, comment voulez-vous qu'ils puissent avoir une plage? On peut toujours trouver quelque chose, mais je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur des services de première ligne après 17 heures notamment. Il y a les organismes communautaires, les centres de crise qui font ce qu'ils peuvent au Québec pour répondre le mieux possible aux besoins des gens, mais c'est pas suffisant.
Donc, mais non, puis il faut le dire, vous parlez des centres de crise, là, mais c'est des initiatives communautaires. Il y a certaines régions qui ne sont pas desservies par un centre de crise, certaines régions qui sont un peu mieux desservies. Il n'y a pas de régularité là-dedans. Donc, on entend, il faut prendre les choses en amont, offrir des services dans des temps normaux, des services sociaux. Mais je voudrais revenir.
Malgré qu'on soit on a un service de crise avec les policiers de la Ville de Québec, il y a 700 patrouilleurs depuis 2002 qu'on accompagne lorsqu'ils sont devant un individu, une personne qui semble bizarre, qui a l'air vivre une crise psychiatrique ou psychosociale, ils nous appellent. Donc ça commence à 8 heures le matin, ça finit à minuit le soir, 365 jours par année. C'est près de 1500 personnes à qui on offre des services d'intervention de crise parce qu'ils nous sont référés par les policiers. Et malgré tout ça, les prisons sont provinciales, sont pleines, sont en surnombre de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Alors évidemment, on peut parler de profilage social, mais on peut aussi parler de difficultés des organisations traditionnelles à accueillir nos gens. Bon, pour tout vous dire, les gens qu'on accompagne à pêche, qui ont un problème de santé mentale, qui ont un problème de toxicomanie. Ils vont pas se présenter dans un GMF high-tech avec des belles lumières halogènes et tout ça. Ils se sentent pas accueillis là-dedans. Là.
Non, effectivement.
Donc, ils vont attendre pour recevoir l'aide d'organisations liées au réseau de l'itinérance ou de pêche. Mais quand ça va pas du tout, ils sont ramassés par les policiers. Puis finalement,
ils finissent à la prison.
Ils commettent des délits. Parce qu'ils ne vont pas en prison juste pour avoir un service psychosocial. Ils ont commis un délit, mais c'est parce que la situation s'est détériorée. Les personnes se retrouvent à ce moment-là amenées pour un examen d'aptitude à comparaître. C'est un peu du jargon pour les auditeurs. Là.
Non, mais c'est clair. Mais écoutez, Benoît Côté.
5 jours en attendant d'être déclaré apte ou inapte à comparaître à la cour municipale. Et pendant ce temps-là, ils ont vécu une expérience très traumatisante.
Oui, c'est ça.
Beaucoup d'utilisateurs qui m'ont dit que l'expérience la plus difficile qu'ils ont vécue dans leur parcours, on pourrait dire, là, de psychiatriser, c'est la prison. Quand tu entends des voix...
Mais écoutez, Benoît Côté, on est d'avis avec vous qu'il ne faut pas envoyer ces gens en prison, qu'il faut tout faire ce qu'il faut en amont. Et j'aurais aimé qu'on parle davantage de pêche, mais malheureusement, le segment tire à sa fin.
Les gens sont intéressés à aller voir ça.
voilà, c'est ça. C'est que je veux renvoyer les gens vers vos services. Donc, il est possible, entre autres, par téléphone, de vous rejoindre par Internet. Donc, dites-nous comment on fait pour vous rejoindre.
Pour la région de Québec, c'est tout simple. C'est un numéro de téléphone, 418.
Oui.
522-2820.
C'est noté et on va l'ajouter, bien sûr, sur la page de notre émission. Benoît Côté, directeur général du programme d'encadrement clinique et d'hébergement, merci pour votre travail.
Merci.